Canal Académie. L'entretien de la semaine.
Mais d'où nous vient l'inspiration créatrice ? Les artistes ont toujours du mal à définir sa source entre révélation foudroyante et recherche approfondie. L'œuvre du peintre vénitien Giovanni Bellini nous donne quelques pistes de réflexion. Curieux de tout, éternel étudiant qui se réinventera toute sa vie, son ascension prend racine dans une Europe alors en pleine ébullition, entre un Moyen-Âge consommé et une Renaissance en puissance. L'artiste a choisi d'en faire un laboratoire à ciel ouvert et absorbe sans retenue toute son époque, l'art byzantin, le style gothique, les techniques du Nord et ses confrères italiens. Il s'inspire de tout, sans jamais copier, et posera les jalons de la peinture moderne. Célébré et admiré de son vivant, Bellini a marqué l'histoire de l'art et a laissé un héritage important auprès de ses élèves. Le musée Jacques Marandré lui rend hommage aujourd'hui à travers une exposition qui s'intitule Giovanni Bellini, influence croisée. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de l'un des commissaires de l'exposition, Pierre Curie, qui est également conservateur du musée Jacques Marandré. Pierre Curie, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être un mot sur le lieu qui abrite cette exposition. Entre le musée Jacques Marandré et la peinture vénitienne, il y a une très longue histoire. Édouard André, l'ancien propriétaire des lieux, était un grand collectionneur de tableaux vénitiens. Et d'ailleurs, lorsqu'on visite le musée, on est tout de suite plongé dans l'ambiance. Les visiteurs sont accueillis par deux grands lions à l'entrée, le lion étant le symbole de Venise. Cette exposition, elle semblait toute évidente.
Oui. C'est d'ailleurs une idée qu'on avait depuis un bon moment de produire une exposition consacrée à cet artiste. On avait déjà essayé il y a quelques années et puis les planètes n'étaient pas alignées. Et elles ne se sont alignées que l'année dernière grâce à un partenariat avec les musées de Berlin. Notre co-commissaire est Neville Rollet qui travaille à la Gemälde Galerie et aussi au Bode-Museum de Berlin. Et nous possédons, nous, dans nos collections, un très beau Bellini qui est bien sûr exposé dans notre salle 1, dans la salle 1, la première salle de l'exposition. Alors, en effet, les André, je les appelle comme ça, d'abord Édouard, puis le couple André, puis Nelly Jacquemart André seul, après son veuvage, ont eu un rapport très très étroit avec Venise. Édouard André, lui, avait une affection particulière pour le XVIIIe siècle. Il a acquis notamment les deux très beaux Canaletto de notre collection, mais aussi une très belle gouache de Guardi. Enfin, il avait cet intérêt pour ce XVIIIe siècle léger, le XVIIIe siècle de Casanova, en quelque sorte. Ce qui culmine d'ailleurs dans l'achat des fresques de Tiepolo, qui décore notre musée, qui est un achat qui date de 1893. Il ne les a malheureusement pas vues installées. Il est mort l'été où elles étaient en cours d'installation. Mais évidemment, ça donne une touche, une particularité, un parfum vénitien à notre musée très fort. Il y a d'autres plafonds qui viennent de Venise. Un plafond d'une des écoles de la Renaissance, d'ailleurs, de Venise, qui est l'atelier des Santa Croce, mais de nombreuses œuvres de Venise, de Vérone, de Padoue ont été choisies par les André, occupent habituellement les murs de nos salles permanentes. Donc, l'idée, et donc un Bellini, comme je vous le disais, l'idée de faire une exposition Bellini s'est tout à fait naturellement imposée quand on a pu la faire.
On va rentrer dans quelques instants dans le détail de son œuvre, mais d'abord essayons de comprendre l'homme derrière le peintre. On sait finalement assez peu de choses sur la vie privée de Bellini. Il y a beaucoup d'angles morts dans sa biographie. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ses débuts et son enfance en particulier ?
La vie des artistes de cette époque-là, c'est quand même toujours un peu difficile de faire des investigations précises sur leur personnalité, leur caractère, etc. Ce qu'on suppose, parce que c'est une supposition, c'est qu'il est un fils naturel, qu'il est un bâtard de Jacopo Bellini. On le suppose par déduction, par le fait que c'est son frère, donc demi-frère, qui a eu l'atelier et pas lui. Son demi-frère s'appelle Gentile Bellini. Il est beaucoup moins doué que Giovanni. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait naturel que ce soit lui qui a eu l'atelier en héritage de Jacopo. Jacopo, c'est un artiste vénitien complètement lié au courant gothique international. Il est un élève de Gentile da Fabriano. Nous proposons, d'ailleurs, nous montrons trois œuvres de Jacopo qui montrent un artiste complètement traditionnel, très, très gothique encore. Alors qu'on sait par ses carnets qu'il était au fait des nouveautés de la Renaissance, de la perspective, d'un certain naturalisme. Et ces carnets, évidemment, Giovanni Bellini les a vus quand il était enfant, adolescent, qui se formait auprès de son père ou de son géniteur, on va dire. Et donc, il grandit et il se forme dans cet atelier, sachant qu'à l'époque, au XVe siècle, on devient apprenti à 10 ans.
Oui,
à 10, 13 ans, les adolescents sont formés à toutes les techniques, en fait, de préparation des couleurs, mais aussi, déjà, à la peinture. Il s'avère très doué, ce Giovanni Bellini, puisqu'on détecte sa participation à des grands chantiers de Jacopo. Donc, il participe vraiment comme artiste, en fait, comme jeune artiste, assez vite à la production de cet atelier qui est connu, hein, qui diffuse un peu en dehors de Venise. On montre par exemple une très belle Vierge à l'enfant avec un prince en donateur, un prince de la maison d'Est. La maison d'Est, c'est Ferrare. Alors certes, c'est pas très loin de Venise, mais enfin, ça montre un atelier quand même très ouvert et assez prestigieux pour l'époque. Hein, un atelier, disons, qui a du succès.
Alors, vous l'avez dit, son père, c'est son tout premier modèle, sa toute première source d'inspiration. Il va emprunter à beaucoup d'autres personnes au cours de sa carrière, donc à son frère un petit peu également. Mais très vite, il va se démarquer et imposer son propre style. Et il va faire des rencontres décisives à côté de sa famille. Parmi ces rencontres, il y a un autre peintre italien qui s'appelle Andrea Mantegna. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui il est et quelle influence il a eu sur Bellini ?
Alors, Andrea Mantegna, c'est une autre obsession des époux André, puisqu'au musée, nous avons trois œuvres authentiques d'Andrea Mantegna et beaucoup d'œuvres qui tournent autour de la création de ce maître assez génial. Mantegna, c'est un peintre qui a, à la suite d'autres artistes, mais enfin surtout, lui, il est le promoteur du retour à l'antique. Du regard de l'art sur l'Antiquité, et tout ça dans sa bonne ville de Padoue, qui n'est pas très loin de Venise, bien sûr. Et à Padoue, où il travaille, viendra travailler également un des génies de la Renaissance, c'est Donatello. Alors, Andrea Mantegna a la particularité de devenir le beau-frère de Giovanni Bellini. Il épouse sa sœur ou demi-sœur Nicolosia Bellini, et par là même, donc il rentre dans la famille des Bellini. Ces mariages sont souvent des mariages un peu d'intérêt, parce que on ne paye pas les personnes, les apprentis ou les ouvriers quand ils sont de la même famille. On ne paye pas les impôts de la même façon que quand on a des employés extérieurs. Donc on peut toujours se poser plein de questions sur ces associations d'ateliers à la Renaissance. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Bellini, le jeune Bellini, va être considérablement influencé par son beau-frère, qui est plus âgé, plus reconnu et plus célèbre. Et de la même façon, de façon réciproque, Mantegna va aussi recevoir de ce jeune peintre, qui est assez génial, qui est très différent de lui, des leçons qu'il va appliquer à sa peinture, notamment sur la conception de la lumière dans ses tableaux. Bellini va prendre chez lui l'influence de l'antique, une certaine grandeur, on va dire, une certaine force sculpturale aussi. Et Mantegna va prendre chez son jeune beau-frère ce goût pour la lumière et aussi une certaine peinture atmosphérique. Hein, voilà. Et entre les deux, l'osmose va se faire vraiment, l'osmose stylistique va vraiment être très forte, puisque très longtemps, on a attribué à l'un ou à l'autre des œuvres et c'est passé d'un corpus à l'autre. Nous avons par exemple, nous, une Vierge à l'enfant entourée de deux saints au musée Jacquemart-André, qui a été très longtemps considérée comme un Bellini de jeunesse et qui aujourd'hui est plutôt classée comme un Mantegna. Donc c'est une influence très forte, plus celle de Donatello. Donatello qui a vécu 10 ans à Padoue et qui a laissé des sculptures et des bronzes absolument magnifiques, très importants, et qui est aussi, lui, l'un des promoteurs de la Renaissance, c'est-à-dire de ce nouveau regard sur l'homme dans son environnement.
Il y a un autre moment important dans sa carrière, concernant plutôt sa manière de peindre à l'époque, donc on est à peu près à la fin du XVe siècle, et les Italiens vont surtout utiliser des techniques à l'eau pour peindre, mais il y a une toute nouvelle technique qui commence à s'exporter progressivement du Nord. Il s'agit de la peinture à l'huile, et Bellini va l'intégrer très vite.
Alors, peut-être pas très vite, mais il l'a intégré, ça c'est sûr. Y a des légendes vasariennes qui racontent que Antonello da Messina, qui est un artiste dont on va reparler dans une minute, quitte la Sicile, va en Flandre, vole la technique de la peinture à l'huile au Venec, et puis rentre en Italie et la diffuse en Italie. Tout ça, évidemment, ça fait partie de la légende avec un fond de vérité, à savoir que c'est une technique qui vient du Nord, mais qui s'est progressivement imposée en Italie, en effet, à partir de la seconde moitié du XVe siècle. On peut parler vraiment de technique mixte, en fait, dans les années 1470-1480, à savoir que dans les mêmes tableaux, on peut trouver des zones ou des couches qui sont peintes à tempera, à l'œuf, selon la technique tout à fait traditionnelle des primitifs italiens, une peinture qui ne permet pas que les couleurs soient mélangées, donc c'est une peinture qui se construit à petits coups de pinceau, de petits treillis, de petites hachures très très fines qui construisent le modelé des formes. Nous présentons le tableau qui fait notre affiche, le Christ mort de Bellini, est un tableau peint ainsi, à la technique à tempera, alors que l'huile permet des transparences, des glacis, des frottis, une beaucoup plus grande souplesse de la construction des volumes. Et en fait, cette révolution, elle est progressive. On va dire qu'elle s'établit peu à peu entre 1450 et 1500. Selon les villes, par exemple, à Venise, elle va s'imposer assez facilement. Florence résistera un bon moment. Ça dépend vraiment des artistes, en fait, et de leur pratique d'atelier. Donc, ça n'est pas une révolution qui est arrivée en un jour, mais c'est en effet un changement de technique. Et Bellini va vraiment, véritablement passer de cette peinture à tempera qui est beaucoup plus graphique, qui est beaucoup plus linéaire aussi, qui permet de travailler sur des formes extrêmement précises, à une peinture beaucoup plus fluide, plus picturale. Michel Laclotte disait c'est de la peinture-peinture, une peinture qui se passe du dessin en quelque sorte, ou en tout cas qui peut le faire oublier d'une certaine façon dans les compositions. Donc Bellini est un passeur véritablement d'une technique à l'autre, ça c'est sûr.
Et cette nouvelle technique va lui permettre de faire évoluer son style ?
Absolument, c'est même un corollaire incontournable, c'est-à-dire que le style qui précède l'adoption de la peinture à l'huile, c'est un style plutôt, je dirais, minéral, graphique, presque germanique. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un très grand dessinateur, Bellini. Hein. Dans ses tableaux, on a vraiment eu des constructions graphiques très, très, très belles, très, très rigoureuses. La peinture à l'huile permet une liberté plus grande dans la réalisation même des tableaux. Elle est plus facile à maîtriser aussi que la peinture à l'œuf. Elle demande une technicité plus rapide, plus facile. Et c'est sûr que lui, il va vraiment évoluer vers ce qui va devenir la grande peinture vénitienne. Elle est née pratiquement dans son atelier, auprès de ses élèves, les plus importants étant bien sûr Giorgione et Titien.
Alors parmi toutes ses œuvres, Bellini va s'imposer dans un genre pictural qui est la production de Madone. Son atelier en produit beaucoup. Et le genre semble très populaire à l'époque. Est-ce que c'est pour ça qu'il en fait sa spécialité ?
Oui, c'est un peintre commercial. Mais il faut le dire d'ailleurs sans aucune agressivité. Bien sûr, les ateliers sont là pour répondre à des commandes. Les demandes de Madone, on appelle même en Italie les madonistes. C'est une spécialité italienne. Elles existent en peinture chez Bellini, mais elles existent aussi en cartapesta, en plâtre, en terre cuite. Enfin, il y a toutes les maisons, toutes les intérieurs un peu bourgeois ou aristocratiques se remplissent de ces Madones, qui sont on les appelle des tableaux de chambre, hein, des Madones et des Camere, qui sont en effet à côté de chaque lit et dans chaque petit oratoire privé, on trouve ces Madones qui se sont aussi pas mal exportées. Donc, bien sûr, il répond à la demande et il crée un type de Madone extrêmement intéressant parce que, d'une part, Bellini est assez proche de la tradition byzantine En effet, on présente quelques madones sur fond d'or qui sont des archaïsmes, mais qui des archaïsmes qui sont sans doute suscités par une sorte de diaspora grecque au milieu du XVe siècle, au moment où Constantinople tombe aux mains des Ottomans. Et donc il y a cette connaissance de Byzance, de ces icônes dans le monde vénitien depuis très longtemps. Venise était une colonie de Byzance, donc c'est pas très étonnant que les deux cultures soient très très intriquées. Mais il apporte à l'art de la Madone une humanité, un regard, une tendresse qui sont absolument nouvelles et qui lui sont propres d'ailleurs. Ces madones sont des espèces de portraits de l'amour maternel qui sont extraordinaires, de tendresse, de douceur, avec quand même derrière cet arrière-plan religieux, toujours très fort bien sûr. Quand on les observe bien, il y a souvent une triangulation entre le spectateur, la Vierge et l'enfant, par un jeu de regard, de main et de pénétration du regard du spectateur, c'est-à-dire du chrétien qui regarde cette œuvre. Ces œuvres sont des œuvres d'intercession, en fait. Hein, aussi, je dirais, c'est l'intermédiaire entre le fidèle, le croyant et Dieu. Et donc, elle reflète l'amour, en fait. C'est tout à fait touchant, alors que, je dirais, les icônes font plutôt peur.
Alors, pour le dire plus vulgairement, ces madones sont un business très lucratif pour lui. Ils ont tellement de succès, ces tableaux, qu'il va en produire à un rythme quasiment industriel. Et pour tenir ce rythme, Bellini fait appel à plusieurs collaborateurs, ce qui est assez courant à l'époque. Et en fait, on est assez loin du fantasme du génie solitaire qui peindrait seul dans son atelier. En fait, la dimension collective est très importante, j'ai l'impression, à l'époque.
Bien sûr, comme les 9 ateliers sur 10, bien sûr, c'est une production collective. On a des niveaux de qualité assez variés dans les œuvres de Bellini, mais en gros, à part peut-être certains portraits qu'il a peints entièrement, admettons, la plupart de ses œuvres sont des œuvres de collaboration. Notre Grande Vierge à l'enfant, que nous inscrivons au musée comme Bellini et atelier, c'est une redondance. Bellini est un atelier. Donc après, on peut discuter de la qualité esthétique et plastique de chaque œuvre, mais en gros, il a participé avec tous ses apprentis à une œuvre collective. Vous avez raison.
Alors, quand on regarde ces tableaux de Vierge à l'enfant, il y a quand même un détail qui interpelle le visiteur. Ce sont les apparences, l'apparence des bébés, donc qui représentent l'enfant Jésus. Leur tête est toujours peinte de façon assez particulière. Elle a presque une apparence de vieillard, qui est parfois difforme. Comment on peut expliquer ça?
Alors, je vois très bien à quel tableau vous pensez. C'est un tableau qui est dans notre salle 2, qui est un tableau de sa toute jeunesse. C'est vraiment un des tout premiers tableaux de Bellini. C'est un tableau très abîmé. Il a été trop nettoyé, sans doute au XVIIIe siècle. Et il y a des couches qui ont disparu, en fait. Des couches de glacis, des couches transparentes qui ont disparu. Donc, il a une drôle de tête, ce bébé de la Vierge à l'enfant de la salle 2. Il y a d'admirables bébés plus loin.
Bien sûr. Pour les historiens de l'art, Bellini, c'est un peintre très intéressant parce que son style, en fait, n'a fait qu'évoluer tout au long de sa vie. Si on devait comparer le Bellini jeune avec le Bellini qui s'approche de ses 80 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
C'est le parcours du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est le parcours, je dirais, d'un artiste sous influence à un artiste suprêmement indépendant, libre, qui invente la peinture moderne. C'est Roberto Longhi qui, devant le tableau de Besançon, que nous avons la chance, le privilège et l'honneur de présenter, l'Ivresse de Noé, qui est son dernier tableau. Et Roberto Longhi pensait... C'est lui qui l'a attribué à Bellini.
Historien de l'art.
Lui, le grand historien de l'art italien, et qui a complètement changé sa datation. On pensait que c'était un tableau du milieu du XVIe siècle, de Palma Vecchio ou de quelqu'un comme ça. Et lui a dit non, c'est le dernier tableau de Bellini, peint vers 1510. Et c'est le début de la peinture moderne. Il considérait que c'était le premier tableau de l'histoire de la peinture moderne. Et c'est un tableau, en effet, extrêmement émouvant, très surprenant dans son format, dans son ambiance. La touche y est très, très libre. Elle est flochetée, elle est vibrante, comme le sera celle de Titien plus tard. En fait, c'est un peu le même chemin que Titien, c'est-à-dire c'est la quête d'une liberté par rapport à ce que c'est que la peinture. Michel Laclotte, de ce tableau, disait « c'est de la peinture-peinture ». Alors ça m'amusait quand j'étais jeune de l'écouter parler de ce tableau. Et en effet, c'est une peinture très libre, en fait, très picturale. Est-ce qu'on peut dire d'une peinture qu'elle est picturale ?
Titien, effectivement, qui était donc son élève. Mm-hmm. Jusqu'à la fin de sa vie, Bellini est demeuré un éternel étudiant. C'est comme ça qu'il est nommé dans l'exposition. Il transmet ses techniques donc, aux plus jeunes, donc, mm-hmm. parmi eux, effectivement, le Titien, Giorgione. Est-ce qu'à l'inverse, comme avec Andrea Mantegna, il va s'inspirer également auprès de ses élèves ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être pas aussi innocent que cela. Je veux dire, c'est un artiste, on l'a dit, commercial, alors, bon, en exagérant un peu, en forçant un peu le trait, mais il doit s'insérer dans l'air du temps, bien sûr, pour continuer de vendre, pour ne pas être démodé, particulièrement à son âge. Donc, il a l'intelligence, la modestie, l'intelligence, mais aussi un peu l'opportunisme d'adopter, de voir ce qui se fait autour de lui, d'adopter le style des plus jeunes. Donc, c'est vraiment réflexif, c'est-à-dire que les jeunes artistes, Giorgione, Titien, Cimada Conegliano, qui le fréquente, Lorenzo Lotto, bientôt. Tous ces jeunes artistes ont puisé chez Bellini, et notamment, et c'est ce qui fait le cœur de l'école de Venise, la notion de plein air, la notion de créer une peinture d'atmosphère, une peinture où l'air circule entre les figures, derrière, devant les figures, dans un éclairage solaire. C'est une approche complètement différente de la peinture florentine ou d'autres écoles. Et ça, ces jeunes élèves-là, ils l'ont pris à Bellini, qui très tôt avait mis en œuvre cette peinture, j'allais dire presque plénériste. Et lui, dans l'autre sens, leur a pris une liberté de touche. Il a pris, c'est aussi l'art de la couleur, hein, du bel colore, Venise. Et donc, c'est un atelier génial parce que c'est justement l'endroit, une espèce où se forme cette espèce de fusion qui va devenir l'école vénitienne avec Titien, Tintoret, Véronèse et toute cette grande école de Venise qui naît en quelque sorte autour de 1500 dans son atelier.
Donc si on devait résumer son héritage aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retiendrait ? Son travail sur la lumière, la couleur, les paysages ?
Oui, couleur, lumière, paysage, une approche de l'homme et de l'humain aussi, très très, très nouvelle, très émouvante. Moi, j'ai un faible particulier pour la Vierge à l'enfant de la Galerie Borghese, qui est un portrait de l'amour maternel, avec cette jeune femme pensive, un peu triste, qui se penche sur son enfant, et l'enfant, inconscient, bien sûr, de son destin de fils de l'homme, de fils de Dieu, qui tapote son peton, comme ça, dans la main de sa mère. C'est très amusant, quand on regarde les détails, en fait, des rapports, des gestes de la mère et de l'enfant, dans nombreux tableaux, c'est très, très observé, c'est très naturaliste, en fait.
Pour les besoins de cette exposition, vous avez choisi des tableaux provenant de plein de collections différentes à travers l'Europe. Est-ce qu'il y a un tableau que le musée Jacquemart-André est particulièrement fier de montrer aux visiteurs ?
Alors, je le disais, le tableau de Besançon, qui est un chef-d'œuvre de... Là, on peut vraiment le dire de la peinture européenne. Hein, c'est un chef-d'œuvre absolu de Bellini et de l'histoire de l'art, et dans l'histoire de l'art. Donc, celui-ci, nous l'avons... vraiment souhaité, sollicité auprès de Besançon. Et nous avons d'ailleurs prêté en échange, pendant le temps de l'exposition, notre Paolo Uccello, parce que d'un commun accord, nous estimions qu'on ne pouvait pas priver le musée de Besançon d'un tel chef-d'œuvre sans une petite compensation. Donc voilà. Non, celui-ci, il est vraiment très important dans notre sélection. On a eu la chance d'avoir ce partenariat avec Berlin, qui nous prête 7 œuvres, donc... En particulier ce Christ mort soutenu par les anges, qui fait l'affiche de notre exposition et qui montre comment Bellini, d'ailleurs, même dans ses sujets tragiques, c'est un sujet terrible, arrive à faire une peinture très sereine, très douce, On n'a pas du tout l'impression d'un tableau de violence. C'est aussi une des grandes différences qu'il a avec Mantegna. Mantegna est un peintre du tragique. Tous ces tableaux sont vraiment marqués d'un saut de grandeur tragique. C'est le cas de notre Ecce Homo, qui est habituellement au musée et que nous avons mis dans l'expo. Mais Bellini, c'est plutôt un peintre du bonheur, quand même. Un peintre de la lumière et d'une certaine réconciliation de l'homme avec la nature.
Bah, merci beaucoup pour apprécier toute cette lumière. On encourage évidemment tous les auditeurs à venir les voir dans le musée. Un grand merci, Pierre Curie, de nous avoir présenté cette exposition, dont le parcours est d'ailleurs très très clair et accessible à tout le grand public. Je rappelle le nom de l'exposition Giovanni Bellini, Influence croisée, donc exposition à découvrir jusqu'au 17 juillet 2023 au musée Jacques Marandré, donc à Paris. Et pour les plus curieux, il y a aussi le catalogue de l'exposition qui est très bien documenté et disponible dans toutes les bonnes librairies.
Comme on dit.
Canal Académie.
La plateforme de podcast de l'Institut de France.